Bonjour. Très joli chant qu'on vient de chanter. J'espère que vous avez aussi chanté, vous qui êtes dans les maisons, qui nous suivez aussi. Je suis né pour te louer. Et en fait, c'est l'objectif de la vie de tout homme, c'est de rendre gloire à Dieu, de le refléter dans sa vie. Et on peut le faire au travers de Christ et avec son aide. Et comme vous le savez, on suit la première épître de Jean depuis quelques dimanches déjà. Hein. Les dernières fois, on a pu voir qu'il y avait un commandement, le commandement de s'aimer les uns les autres. Et c'est une conséquence pratique, visible, palpable de ce que Dieu fait en nous et ce qu'il fait aussi par son esprit. Et puis finalement, l'amour fraternel est un très très bon indicateur de notre assurance en Dieu. Comment savoir si je suis à Christ ou pas? Eh bien, un des indicateurs, c'est l'amour fraternel, on a vu ça dimanche dernier, et c'est le ministère de l'Esprit, l'Esprit de Dieu qui habite en nous et qui nous aide aussi dans cet aspect-là. On était au chapitre 3, les derniers versets 23 et 24 disaient ceci, dans la première épître de Jean, chapitre 3, versets 23 et 24. C'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Dieu nous donne son Esprit quand nous nous donnons à Christ lorsque nous acceptons l'œuvre qu'il a faite pour nous, à la croix, à notre place, pour le péché, pour notre péché. Quand on parle d'esprit, c'est un bon rappel, mais de quel esprit parlons-nous? Et c'est un petit peu ce que va nous dire, nous faire préciser l'apôtre dans le chapitre 4 qui suit. Et on va lire à partir du verset 1 et on va lire jusqu'au verset 6. 1 Jean chapitre 4 des versets 1 à 6. Et vous allez voir dans la lecture qu'il est question d'esprit avec un E minuscule quand il s'agit des influences qui ne sont pas celles de Dieu. Et les personnes les éditeurs de la Bible qui ont mis esprit avec un E majuscule, c'est quand il s'agit de l'esprit de Dieu. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Et voici comment identifier l'esprit de Dieu. Tout esprit, petit e, qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Donc l'esprit de Dieu, par exemple. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue et maintenant déjà, il est dans le monde. Vous, petit enfant, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Donc là, il s'agissait des apôtres, hein, des enseignants qui sont inspirés par l'Esprit de Dieu. Hein. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'Esprit de la vérité et l'Esprit de l'erreur. Alors ce texte, finalement assez court, est très intéressant parce que il va nous aider à discerner quel est l'esprit qui anime notre vie, en vrai. Alors évidemment, d'après le texte, on souhaite que ce soit l'Esprit de Dieu qui inspire notre vie, qui anime notre vie. Hein. Et ce texte va nous aider à voir ce qui est faux et ce qui vient de Dieu. Mais c'est aussi un encouragement à la vigilance, à exercer notre discernement. Mais c'est aussi un texte merveilleux d'encouragement, d'émerveillement, de voir ce que Dieu a fait en nous au travers de l'Esprit. Alors que ce texte, on lit beaucoup de textes finalement, dimanche après dimanche, et c'est très bien, mais que ce texte puisse contribuer aussi à ce que ça marque nos consciences, nos pensées, et qu'on puisse être toujours plus ferme dans l'Évangile. Pourquoi l'apôtre aborde ce sujet ? Ça pourrait nous sembler être un lieu commun. Quel est l'esprit qui anime notre vie ? Quel est l'esprit qui anime les enseignements que nous recevons ? Ça pourrait paraître un lieu commun. À savoir que l'Église naissante n'avait rien à voir avec l'Église que nous connaissons maintenant. On pouvait pas à l'époque utiliser l'expression « l'Église au milieu du village ». Ça n'existait pas, les villages avec des bâtiments, avec un clocher, ça n'existait pas. Les églises de l'époque étaient des églises de maison qui ressemblent beaucoup à nos groupes de maison. Et donc, il y avait des groupes qui étaient un petit peu disséminés, plus ou moins grands. Alors des fois, quand en plus ils étaient reçus chez des personnes qui avaient suffisamment de moyens, ils pouvaient être plus nombreux. Mais c'était plutôt des groupes de croyants qui étaient répartis dans les différentes villes. Et les personnes qui enseignaient l'Église, ils n'avaient pas le Nouveau Testament. Hein. Le Nouveau Testament était en train de se construire, vu que l'apôtre est en train justement d'écrire à ces différentes églises, à ces différents groupes de maisons. Hein. D'ailleurs, des fois, c'est un peu des lettres circulaires qui circulaient de groupe en groupe dans la même région, la même ville. Hein. Donc, comment ça se passait ? Eh bien, des personnes, des enseignants, des prophètes, passaient de groupe en groupe pour enseigner les différentes communautés qui étaient rassemblées, petites ou grandes. Alors, c'était bien de recevoir ces personnes. Certains avaient des lettres de recommandation, et on comprend pourquoi. D'autres, peut-être, arrivaient sans lettres de recommandation. Peut-être qu'ils édifiaient l'Église, et l'Église devait en prendre bonne note et avancer avec Christ dans le sujet. Mais des fois, c'était des personnes qui étaient des faux prophètes ou des faux enseignants et qui apportaient des choses qui étaient fausses et qui perturbaient l'Église naissante. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul écrit de si nombreuses épîtres. C'est justement pour corriger certains biais qui étaient véhiculés par des personnes qui étaient animées d'un autre esprit. Voilà pourquoi ici l'apôtre Jean rappelle à ses lecteurs, justement, de se réjouir de l'œuvre de l'Esprit, mais en même temps, de se méfier et de discerner ce qui n'est pas, justement, de l'Esprit de Dieu, qui est animé d'un autre esprit, l'esprit de l'Antichrist, on pourrait dire l'esprit de la société de l'époque. Alors, soit c'était délibérément et intentionnellement animé par l'ennemi de Dieu, soit c'était tout simplement des personnes qui voulaient avoir du succès, qui voulaient vivre de leur pérégrination et qui racontaient un petit peu ce qu'ils avaient leur passé par la tête. Alors on pourrait se dire, nous on ne connaît pas trop ça, les églises de la chrétienté ne sont pas tellement confrontées à des messagers qui viennent et puis il nous faut plus ou moins discerner s'il dit des choses vraies ou des choses fausses. On est plutôt habitué à des communautés qui sont avec des personnes, on va dire, plus ou moins stables. Ça ne veut pas pour autant dire qu'ils racontent pas n'importe quoi. Et vous avez, je l'ai déjà dit, le devoir de vérifier si ce qui est dit ici dans cette assemblée, c'est pas n'importe quoi, même si c'est moi qui vous le dis. Mais pourtant, on pourrait se dire, mais ce texte, alors finalement, est-ce que c'est juste un texte qui est daté et qui correspondait à l'époque de l'apôtre Jean. Mais finalement, ce texte, il est d'une actualité folle. Parce que les messagers se déplacent plus tellement en passant d'une ville à une autre, etc. Il me semble que les messagers se déplacent beaucoup par le net. Et j'entends de plus en plus, « Ah ouais, j'ai entendu ça sur... t'as pas vu telle vidéo ? Ah, t'as pas vu tel enseignant ? T'as pas vu tel... » non, je ne les ai pas vus, non. Mais on est confronté exactement à la même chose avec tout ce qui est possible de capter sur Internet et qui est pseudo-chrétien ou qui est vraiment un bon enseignement qui est complètement farfelu ou qui est vraiment biaisé et qui est vraiment insidieux. Et en fait, on se trouve exactement dans la même situation que les croyants de l'époque de l'apôtre Jean maintenant. Comment discerner quand sur Internet, on entend quelqu'un qui a l'air d'avoir le feu, d'avoir tout ce qu'il faut, est-ce que c'est de Dieu ou est-ce que c'est pas de Dieu? Et des fois, quand j'entends ce qui est raconté sur Internet, ça me laisse, comment dire, triste, de marbre, ou voire même, je dis, mais quelle perte de temps. Et là, en fait, on va voir dans le petit texte qu'on a lu, vraiment des indications pour savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu ou s'il s'agit d'une influence qui n'est pas de Dieu. Et un peu dans l'original de ce texte, c'est un petit peu pour regarder si c'est de la vraie monnaie ou de la fausse monnaie. Hein ? J'espère que quand vous recevez des allocations, quand vous recevez votre salaire, vous aimez bien que ce soit en vraie monnaie et pas en fausse monnaie. Sinon, ça ne servirait pas à grand-chose, à part peut-être pour jouer au Monopoly. Hein. Et là, c'est exactement la même chose. Ce que nous entendons doit correspondre à ce que Dieu désire que nous recevions. Et en fait, il y a deux tests dans le texte que l'on vient de lire. Un test théologique et puis un test plus pratique. Est-ce que les personnes apportent, rapprochaient ou éloignaient des apôtres? Est-ce qu'ils étaient en phase avec les apôtres ou est-ce qu'ils, justement, occasionnaient de la distance vis-à-vis de ce que les apôtres avaient apporté? Ce test-là demeure aussi pour nous excellent actuellement pour savoir si ce que l'on entend vient de Dieu ou pas. On vient de le lire, tout esprit qui ne confesse pas ou qui ne reconnaît pas Jésus comme Messie et comme homme, c'est celui de l'Antichrist. La base de notre foi, c'est Christ. Dieu fait homme qui a porté le péché à notre place, qui en a subi la condamnation à notre place et qui l'a vaincu. S'il n'avait pas été homme, il n'aurait pas pu porter, ça aurait été un tour de passe-passe, ça aurait pas été en vrai. Donc il fallait qu'il soit homme pour porter notre péché et il fallait qu'il soit Dieu pour pouvoir en triompher. Les deux aspects sont importants. Et vous pourrez remarquer dans l'histoire de l'humanité, ces deux aspects sont toujours attaqués. Et en fait, toute affirmation qui va influer sur l'un, mettre en doute l'un ou l'autre, est une inspiration, comme une inspiration de l'Antichrist. Et ces tendances étaient déjà en germe à l'époque, et on la retrouve dans l'histoire de l'humanité. On pourra peut-être se pencher sur des pistes qui remettent en cause, justement, soit le fait que Jésus était un homme, soit le fait que Jésus était Dieu. Alors, à l'époque, il y avait le docétisme qui commençait à émerger, qui va avoir beaucoup plus d'impact plus tard, et qui disait que Jésus n'était pas un vrai humain, il semblait une sorte d'esprit qui semblait matériel. Il ne pouvait donc mourir, et donc il a semblé le faire. Donc c'était quelque chose qui déjà était en germe à l'époque. Jésus n'était pas vraiment un homme, mais il aurait fait un jeu de mystification. Alors, ça correspond absolument pas à ce que l'on lit d'ailleurs dans les évangiles. C'est quelqu'un qui était vrai et qui ne baissait pas la garde pour parler en vrai et dire la vérité. Donc que ce soit une personne trouble qui ait joué un double jeu, ça ne correspond pas à ce que l'on lit dans les évangiles. Il y a une autre idée qui faisait son lit à cette époque-là, c'est le sérinthianisme. Jésus aurait été un réel humain. À son baptême, il aurait été plus, mais ça serait effacé juste avant la croix. Un peu comme si le baptême avait été un truc magique et que cet effet-là se serait atténué juste avant la croix. Donc là, ça appuie beaucoup plus sur l'aspect humain, mais pas sur l'aspect divin. Et déjà, à l'époque, eh bien, il y avait des idées qui essayaient de montrer que c'était pas possible que à la fois ce soit un homme et à la fois ce soit Dieu. Effectivement, c'est dur à comprendre. Parce que, ben, on n'a pas d'équivalent autour de nous. Mais fort heureusement qu'on n'a pas d'équivalent autour de nous. Parce que, ben, ça voudrait dire que c'est quelque chose de commun. Et c'est quelque chose d'extraordinaire que Dieu a permis en Jésus pour résoudre le problème du péché. Et ses conséquences, comme je l'ai dit, de penser que c'était qu'un esprit ou que c'était qu'un humain, sont fondamentales. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une finasserie un petit peu théologique. Oui, mais lui penche un peu plus de ce côté-là, l'autre il penche un peu plus de ce côté-là. Les deux aspects sont fondamentaux. Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Si on touche à cela, on touche à l'œuvre du salut. Et nous ne sommes pas sauvés. Ces remises en cause, elles durent encore. Paul parlait de ce frère qui est d'origine kurde. La théologie véhiculée musulmane remet en cause la divinité de Jésus. Pourtant, dommage, il devrait lire le Coran, je pense que ça les ferait réfléchir. Mais ce n'est pas une religion où on lit le Coran, c'est une transmission beaucoup plus orale. Donc, c'est ce que l'on entend qui va construire la majorité des personnes de culture et de foi musulmane. La théologie libérale, protestante, alors qu'on a le mur des réformateurs à quelques dizaines de kilomètres. Dieu ? Non, une bonne pensée, quelque chose de bien, de moralement, sur lequel il faut s'inspirer, dont on s'inspire de moins en moins d'ailleurs, et ainsi de suite. Parler des témoins de Jéhovah récemment, pareil. La divinité de Jésus est remise en cause. Mais tout ce que l'on entend par les médias, par l'enseignement scolaire, remet en cause aussi la divinité de Jésus. Toutes les influences qu'on a extérieures, hors de la parole de Dieu, remettent en cause la divinité de Jésus. Pourtant, les personnes qui ont été les témoins de l'œuvre de Jésus, de son ministère, eh bien, peuvent témoigner à la fois de son humanité et de sa divinité. Le texte nous parle de Jésus homme ici. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel que du vivant de l'apôtre Jean, on remette en cause le côté humain de Jésus. Les opposants de Jésus qui l'ont amené à la croix n'ont jamais remis le côté humain en cause. C'était pour eux un homme qui les dérangeait. Mais ils n'ont jamais dit que c'était un esprit ou une espèce d'hologramme qui venait leur parler. Donc le côté humain des personnes qui étaient les disciples, comme des opposants dans les évangiles, est quelque chose de manifeste. Mais en même temps, on a des attestations que Jésus était bien plus qu'un homme. D'ailleurs, on a des attestations, on pourrait dire, avant sa vie, pendant sa vie et après sa vie. Imaginez ces idolâtres, certainement mêlés à l'occultisme, rois mages, comme on dit, qui ont vu qu'il y avait quelque chose de différent, qui habitaient à des milliers de kilomètres et qui se sont dit « Ouais, ben, on va faire une expédition pour voir ce qu'il est arrivé à Bethléem, à Jérusalem, en Judée. » Juste un petit peu comme ça, hein. Bon, c'est quelque chose d'habituel, hein. Il y avait juste une étoile qui était née et qui les guidait. Quelque chose de classique, hein, de courant, hein. Vous, certainement, quand vous êtes né, il y a une étoile qui est née, qui a guidé la famille pour venir vous saluer à la maternité. Hein ? Logique. Il y avait quelque chose de particulier, de spécial, avant. Pendant, et on a Nathanaël sous le figuier. Quand Jésus lui a dit qu'il l'avait vu, il a compris que ce n'était pas juste quelqu'un qui était comme les autres. Mais on a aussi, après la mort et la résurrection de Jésus, Thomas, cartésien, plus que ça, tu meurs. qui a vu l'extraordinaire de Dieu, la résurrection, qui a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Dieu a permis dans le ministère de Jésus qu'on ait suffisamment d'indicateurs pour qu'il nous laisse ces témoignages de personnes très différentes, d'arrière-plan différents, qui ont compris que Jésus était un homme et qui, en même temps, il était Dieu. Comme le dit le texte, ceux qui sont inspirés par l'esprit qui nous entoure, l'esprit du monde, l'esprit de l'Antichrist, de notre société, eh bien, ils vont raisonner avec leur référentiel, avec les données qu'ils ont en eux. Concilier le fait que Jésus est homme et Dieu en même temps, c'est impossible. Donc, ils vont essayer d'effacer l'un ou d'effacer l'autre. Parce qu'ils vont raisonner avec un raisonnement qui n'est pas éclairé par l'Esprit de Dieu. Nous qui avons accepté Christ, ben pas plus. On ne peut pas concilier le fait que Jésus est homme et Jésus est Dieu. C'est inconciliable. Mais par contre, l'Esprit de Dieu nous aide à y placer notre foi et nous aide à décrypter dans la lecture de la parole de Dieu, inspirée par l'Esprit, suffisamment d'indices, d'indicateurs, de preuves qui montrent que ce qu'on n'arrive pas à concilier était vrai. Notre intelligence n'arrive pas à le concilier. Le problème, ce n'est pas ce que Dieu a fait. Le problème, c'est que notre intelligence n'arrive pas à concilier les deux faits. Normal, c'est divin. Et nous, on est la créature et on ne sait pas comment est le créateur et on ne peut pas être au niveau du créateur. Mais par contre, Dieu, par son esprit, nous a donné suffisamment d'indices pour que notre foi soit une foi qui soit étayée et qui ne soit pas une foi, on pourrait dire, un peu illuminée et complètement sans réflexion. Ce qu'il y a de beau aussi dans ce texte, là on a eu des indices qui nous montrent comment déjouer l'esprit de ce monde qui veut remettre en cause l'œuvre de Dieu par Christ. Donc si on entend des échos, des enseignements qui nous disent « Ah oui, non, mais c'était pas vraiment, il n'était pas vraiment mort » ou « Ah oui, non, mais au dernier moment ils ont changé ceci, au dernier moment ils ont fait ceci, cela », ça doit être lumière rouge, la personne est en train de nous raconter quelque chose qui n'est pas ce que Dieu nous a confié au travers de la parole de Dieu. Donc ce texte nous donne des indices, nous donne aussi l'indice que si un enseignement nous détache de ce qui est dit clairement dans la parole de Dieu, que clairement ce que les apôtres nous ont donné, là aussi lumière rouge. Un des indicateurs de l'époque, là c'est l'apôtre Jean, mais on le voit aussi avec l'apôtre Paul, c'est que ces pseudo-prophètes, ces pseudo-enseignants, une des particularités, c'est qu'ils détachaient les communautés de l'enseignement reçu par les apôtres qui les avaient reçus de la part de Jésus. Et bien, pareil, nous, si on entend une super vidéo, un super orateur, qui dit « Ah oui, non, mais j'ai quelque chose à vous révéler que jamais personne n'a révélé. » Lui, il a la connaissance. Bon, déjà, il faut se dire « Tiens, c'est bizarre, au bout de 2000 ans qu'on ne s'en soit jamais aperçu. Hein. » Et en général, l'intérêt de ces prédications, c'est de prendre l'auditoire et de se le ramener au prédicateur et pas d'attacher à Christ. Et que cette personne soit la personne qui va diriger, qui va être le directeur de conscience, qui va être aussi celui bien souvent qui vide les bourses des personnes, hein, sonnant à argent et trébuchant. L'intérêt de ces personnes, c'est que tout soit vers eux et ils ne rattachent pas à Christ. Et c'était exactement la même chose à l'époque. Ces faux enseignements ramenaient les communautés à eux, tout simplement, des fois basiquement pour vivre, pour en vivre. Mais ce texte ne sert pas uniquement à nous méfier, et ce texte nous invite à avoir du discernement, mais c'est aussi un texte qui est un puissant encouragement. Parce qu'on pourrait se dire, ben face à tous ces risques, comment je vais faire pour savoir si c'est de Dieu, pas de Dieu? Mais regardez ce que dit le texte, les antichrists Il est dit, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Pas beau ça ? Dieu a permis que quand on donne notre confiance et notre vie en Christ, l'Esprit habite en nous. L'Esprit de Dieu, pas juste un esprit, l'Esprit de Dieu habite en nous. Cet esprit est plus grand que celui qui est dans le monde. Plus grand que celui qui est l'inspirateur de ce monde. Et dans la parole de Dieu, il a différents noms, hein, celui qui inspire le monde, mais c'est toujours la même origine, on pourrait dire. Ça peut être Satan, le prince de ce monde, le dieu de ce siècle, le prince de la puissance de l'air. Il y a différents termes, mais c'est toujours cette influence qui s'oppose à Dieu. C'est toujours les mêmes esprits qui s'opposent à Dieu. C'est toujours le même ange révolté qui s'oppose à Dieu. Et qu'est-ce que nous dit le texte ? Que celui qui est en vous est plus grand que lui. L'ennemi de Dieu est quelqu'un qui est largement au-dessus de nous, qui a des pouvoirs, une puissance qui nous dépasse, mais bien inférieure à celle de Christ, hein, parce que c'est un être créé qui s'est révolté. Hein. Mais par contre, il est plus puissant que nous. Mais ce que nous dit le texte de ce matin, c'est que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. L'Esprit de Dieu et Dieu est donc est plus grand que cet être créé qui influence le monde, qui opprime le monde, voire même qui nous opprime aussi. Il est plus grand. Donc c'est un puissant encouragement à se dire « Oui, je suis plus faible, mais celui qui est avec moi est plus grand. » Et il est tout le temps avec moi. L'Esprit de Dieu ne s'en va pas et revient quand il a du temps. Il est tout le temps avec nous. Et que ça puisse être vraiment un encouragement et un émerveillement de l'œuvre de Dieu. En se donnant à Jésus, Dieu nous a donné son esprit, plus grand, plus fort que ce qui est dans le monde. Et pour terminer, j'aimerais juste résumer, et j'aime beaucoup cette première épître de Jean, un peu résumer les idées que l'apôtre Jean essaye, et parce que nous on a aussi essayé de comprendre, surtout moi essayé de vous transmettre avec faiblesse, c'est « ne nous éloignons pas de la beauté et de la simplicité de l'Évangile ». Simplicité ne veut pas dire simpliste. Simplicité parce que c'est accessible et compréhensible à tous. L'œuvre de Dieu, et qui montre la divinité de l'œuvre de Dieu, c'est qu'elle est compréhensible et accessible, quelles que soient nos personnalités, nos parcours, nos études. C'est accessible. C'est simple, mais pas simpliste. Ne nous en éloignons jamais. C'est aussi un encouragement à bien nous investir dans cet évangile, à puiser dedans, à lire, à s'inspirer, justement, de la bonne monnaie et pas de la fausse monnaie. Plutôt que 40 000 vidéos, il vaut mieux quelques versets dans la Bible. Là, on est sûr de la source. Là, on est certain de la source. C'est inspiré par le Saint-Esprit. L'Esprit en nous nous aide à le comprendre. Plutôt que de regarder des vidéos, lisons la Bible. Aussi, par rapport à ce que l'on entend autour de nous, eh bien, aiguisons notre discernement. Pour aiguiser notre discernement, ben nourrissons-nous de la parole de Dieu et puis soyons attentifs à ce que l'on entend. Et pas séduits par des choses qui pourraient flatter notre ego parce qu'il y a un truc spécial qu'on n'a jamais entendu, mais qu'à toi je vais révéler. La simplicité de la parole de Dieu, c'est elle qui a transformé les personnes parce qu'elles ont découvert Christ. Et ça, pendant des siècles, où que l'on soit sur la terre. Et qu'on puisse continuer à s'émerveiller de ce que Dieu a fait. Dieu nous a donné son esprit justement son esprit est plus fort que ce qui est autour de nous. Dieu est avec nous, Dieu est toujours triomphant, bien que nous devons assumer le fait que notre condition est une condition de pécheur. Nous vivons les conséquences du fait que nous sommes pécheurs, hein, mais l'Esprit de Dieu qui est avec nous est triomphant. Ça ne veut pas dire qu'il enlève les conséquences de notre péché dans le quotidien, mais on peut s'appuyer sur lui et ce n'est jamais un esprit de défaite. Ben que ça nous encourage à la simplicité et la grandeur de l'Évangile. Amen.